Moi, je m'interroge sur comment prescrire ces nouvelles formes de narration qui n'entrent pas forcément dans les cases qu'on connaît bien. En quatre temps, je vais vous parler rapidement de mon sujet de thèse, parce que c'est un peu dans ce cadre-là que j'arrive ici, en tout cas que j'ai construit mon intervention. Je vais remettre rapidement la BD numérique aussi en contexte, pour vous expliquer un peu la spécificité de ces créations originales, expliquer ce que j'appelle l'ère numérique et ce qu'elle peut impliquer, et puis ensuite poser vraiment la question de la promotion dans ce cadre-là. Donc mon sujet de thèse s'intitule « L'usage des dispositifs de publication numérique par les auteurs et les publics de bande dessinée ». Avec cette approche, ça fait une douzaine d'années que je me passionne pour la BD numérique. J'ai consacré un annuaire, j'ai consacré un site d'hébergement webcomics.fr, je tiens un blog sur le sujet. Donc voilà, c'est vraiment le secteur qui me passionne. Et si j'ai choisi d'axer ma thèse donc en sciences de la formation et de la communication sur les usages des auteurs et des lecteurs, c'est pour prendre un peu le contre-pied de tout l'état de l'art actuellement en recherche sur la bande dessinée, en théorie de la bande dessinée, qui est une approche esthétique ou théorique, sémiologique, on pense à Thierry Grunstein en particulier, qui s'intéresse plus à se demander est-ce que ce qu'on voit sur nos écrans aujourd'hui, c'est encore de la bande dessinée ou pas ? Et où est-ce qu'on va mettre le curseur pour savoir est-ce que le turbo-média de la bande dessinée, Didier Borg disait ce matin que selon lui ça n'était pas le cas. Moi ce qui m'intéresse c'est pas de savoir si aux yeux des théoriciens c'est de la bande dessinée ou pas, c'est de savoir si pour les lecteurs et les auteurs qui créent ou qui lisent des bandes dessinées, enfin des choses sur support numérique, et pourquoi est-ce qu'ils les raccrochent à la bande dessinée d'une manière ou d'une autre, et comprendre un peu ces usages à travers ça. En tous les cas, de la vie de Grunstein en particulier, on est face à un tournant historique pour la bande dessinée, puisqu'elle est confrontée à quelque chose de totalement nouveau, mais qui se situe quand même dans une continuité, puisque, on l'a déjà vu au cours de cette journée, ça fait une vingtaine d'années que de plus en plus les auteurs créent avec l'ordinateur, que l'ordinateur sert aussi à tout le circuit éditorial, et finalement, ça n'est qu'une juste continuité des choses que de voir ces choses créées sur ordinateur arriver en diffusion sur ordinateur. C'est d'ailleurs un cheminement qu'on observe depuis les naissances de la bande dessinée, puisque l'imprimerie Gutenberg avait quand même bien scindé le texte et l'image. On imprimait le texte avec des caractères mobiles, l'image, on la gravait sur quelque chose et on l'imprimait séparément. Enfin, les deux éléments étaient bien séparés, et on a un précurseur du multimédia, en tout cas aux yeux d'un chercheur, Mialaké, qui est William Blake, puisque William Blake s'est attaché, fin 18e, à graver ces textes à l'envers pour pouvoir les intégrer pleinement à l'image. Il voulait que ça soit un tout vraiment cohérent. Les vraies naissances de la bande dessinée, les théoriciens les situent plutôt à partir de Töpffer et puis au moment du et puis aussi fin du 19e, lorsque les moyens technologiques ont permis à des auteurs comme Töpffer de reproduire à l'encre et sur papier quelque chose qu'ils avaient tracé à l'encre et sur papier. Donc tout ça pour dire que la BD numérique aujourd'hui, la continuité qui consiste à dire qu'on diffuse avec un ordinateur, sur ordinateur, quelque chose qui a été créé sur ordinateur, ça n'est qu'un juste retour des choses à ce qui a vu émerger le langage moderne de la bande dessinée, à savoir diffuser sur les mêmes outils que ceux qui ont servi à la production. Et l'ère numérique, dans laquelle tout ça se situe, à mon sens, elle se définit à la fois par une pluralité de médias et par une pluralité de formes de discours qui convergent sur les mêmes écrans. C'est-à-dire qu'on a sur les mêmes écrans à la fois du film, on écoute de la musique avec les mêmes ordinateurs, on va voir de la vidéo, de l'image, du son, de la photo, de la bande dessinée, du texte, de la littérature, tout ça est mêlé sur les mêmes écrans, et on a des niveaux de des formes de discours qui sont différents, puisqu'on va à la fois converser et publier sur les écrans. Et les deux commencent vraiment à devenir parfois très indistincts. On disait tout à l'heure, est-ce que les gens s'informent sur Facebook sur la bande dessinée, mais en même temps, quand les gens vont sur Facebook, est-ce que même ils pensent que c'est pour s'informer ? C'est parfois plus pour discuter. Donc on peut vraiment se poser la question de ce mélange des choses sur les mêmes écrans. Et tout ça, ça a des répercussions. Il y a des chercheurs qui sont intéressés à ces répercussions pour le langage du cinéma, par exemple, et puis comment le langage du cinéma pouvait avoir des répercussions sur le langage des nouveaux médias. Donc c'est le cas de Emanovic. Emanovic nous invite à nous demander qu'est-ce qui se passe en ce moment dans cette phase transitoire, pourquoi demain nous raconterons autrement. Mais dans cette approche qui consiste à dire que demain on est sûr, Clément le dit quand il dit « chaque changement matériel des supports narratifs a entraîné d'importantes modifications dans l'art de raconter des histoires », on le sait, l'histoire nous l'a prouvé, à chaque fois qu'il y a eu des changements matériels, on a vu des évolutions très fortes dans nos manières de raconter des histoires. On sait qu'on racontera autrement demain, mais plutôt que se livrer à la spéculation et se demander comment est-ce qu'on va raconter demain, l'idée c'est aujourd'hui d'observer cette phase transitoire durant laquelle les choses se mettent en place. Parce que demain, il sera trop tard pour comprendre pourquoi on raconte autrement. C'est aujourd'hui qu'on peut voir comment le langage de la bande dessinée, finalement, apporte une certaine hérédité, apporte un patrimoine, un ADN, dans des nouvelles manières de raconter, qui peut-être demain ne seront plus de la bande dessinée, mais est-ce que c'est vraiment important, du moment qu'on raconte encore des histoires et qu'on en lit toujours. Alors dans ce cadre-là, toutes les nouvelles formes de création, comment est-ce qu'on peut les promouvoir et les prescrire ? On est aujourd'hui face à une situation transitoire, on essaie de faire entrer au chausse-pied la bande dessinée traditionnelle dans les écrans numériques. À mon sens, si cette situation n'a intérêt à perdurer que pour ceux pour qui le livre est un produit. Pour tous ceux qui ont compris que le livre c'est d'abord un écrin pour des récits et des univers, je pense que tous ceux-là sont d'accord pour dire qu'ils ont envie de lire des livres, des histoires qui sont faites pour le livre, dans le livre, et ils ont sans doute aussi envie de découvrir des histoires qui sont faites pour les écrans et sur les écrans. Et les éditeurs ont plutôt tendance à être dans la première catégorie, semble-t-il, d'après les positions qu'ils peuvent prendre. Ils sont très attachés au papier. On voit Isneo, c'est 1700 BD qui sont numérisés, qui sont à consulter sur abonnement. C'est des BD numérisés, on est dans l'homothétique, on n'est pas dans la création. Le premier éditeur de BD en ligne, Fullstrip, a disparu, et c'était essentiellement de la BD pensée comme de la BD papier. Quant à Manolo Sanctis, il est en recherche d'un repreneur. Moi, a priori, c'est... D'après tous les éléments qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est pas gagné. Manolo Sanctis aussi était dans le principe de permettre aux gens de diffuser sur Internet une BD qui finalement était conçue d'abord pour le papier. Ils ont conçu toute une liseuse, un produit technologique assez performant pour permettre de lire des planches qui étaient faites d'abord pour le papier, pas pour l'écran. Et puis on a des outils qui sont orientés plus pour le multimédia. Donc on a parlé de Comic Composer aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Il y a une petite boîte qui est une des dernières start-up, start-up non, parce qu'ils n'ont pas commencé avec des grosses levées de fonds, justement, c'est pour ça qu'ils existent encore. La petite société Medion qui propose un outil qui permet de concevoir des récits pour les tablettes, qui est assez performant et c'est plus artisanal, on va dire, que Comic Composer. Il travaille en direct avec les auteurs, en fonction des demandes des auteurs, et ça donne des résultats assez sympathiques. On a un développeur qui travaille sur Art of Sequence, un langage de programmation pour raconter des histoires d'un nouveau genre. Tiny Shaker, qui est un petit outil que j'ai conçu pour faciliter la création de Turbo Media. Un gros mot. Derrière tout ça, il y a quand même d'abord des auteurs qui sont là pour publier des choses, mais qui non seulement ils explorent des nouvelles manières de raconter, mais aussi des modes de diffusion différents. Donc on a les autres gens dont on a déjà pas mal parlé aujourd'hui qui méritent vraiment d'être jugés le plus intéressant, les plus intelligents des exemples à ce jour. Et puis on a des choses qui arrivent, alors Head Comics qui existe déjà, on a la revue dessinée et Monsieur Cyclope qui sont des choses qui vont arriver dans le cours de l'année que je pense qu'il faut surveiller. On a des petits français qui font du French Comic sur tablette qui s'appelle Web Ellipse et puis Nagmag qui est aussi pour tablette qui est un magazine d'humour pour enfants. Et donc tous ces auteurs-là, là c'est toujours des initiatives qui partent des auteurs. Alors, tout le problème c'est que toutes ces initiatives ont beaucoup de mal à trouver des chemins de prescription parce que la presse généraliste cite très très peu de récits. J'ai dressé un panorama de la presse généraliste entre 1997 et 2011. Je trouvais peut-être à peu près 300 articles. Et sur les 300 articles, finalement il y en a énormément qui parlent de BD numérique mais sans à aucun moment citer un seul récit. Il ne parle pas des histoires, il parle des modèles économiques, il parle des nouvelles tractations de Isneo, il parle de AV Comics, etc. Mais il parle très très peu des histoires proprement dites. Et quand ils en parlent, c'est toujours quand il y a une publication à papier à la clé. Donc on a une espèce de tropisme du journaliste pour ce qu'il connaît, l'album. C'est la presse informatique qui fait encore le mieux. Il y a énormément de récits qui sont cités par Micro Hebdo. On peut les remercier. La presse spécialisée, je la connais un petit peu moins, mais elle est quand même plutôt axée sur le livre. Quant aux libraires et aux bibliothécaires, évidemment, ce qu'ils connaissent le mieux, c'est le livre. Alors, il y a des bonnes volontés. On le voit à droite, à gauche, mais ça reste encore assez parcellaire. Et pendant ce temps, il y a malgré tout des choses qui se passent. On l'a dit, c'est sur les blogs que la prescription se passe le plus, à la fois pour les albums papier, C'est ce que révélait l'enquête. Mais aussi pour le numérique, Thomas Cadden, il y a 2 semaines, témoignait du fait que Claire Chazal, parlant des autres gens sur TF1, ça n'avait pas eu d'impact majeur sur, l'audience des autres gens. Alors que quand Martin Wittberg ou Boulet en parlent sur leur blog, alors là, on voit les pics d'audience. Donc c'est les blogs qui fonctionnent le mieux. Les lecteurs le plus curieux, ben c'est souvent les auteurs. Il y a quand même beaucoup d'auteurs parmi les lecteurs de BD numérique aujourd'hui. Les vrais lecteurs purs, il n'y en a pas forcément tant que ça. Et puis ce qu'on observe, c'est que finalement, les internautes partagent quotidiennement des millions de liens sur les réseaux sociaux, et qu'on, contrairement à la BD papier ou le réseau social, ok, si on parle d'une BD sur un réseau social, peut-être ça ne va pas déclencher un acte d'achat. Si on me renvoie vers un lien sur un réseau social, il y a des chances que je clique dessus. Et aujourd'hui, la BD numérique, elle se bat dans quelque chose de beaucoup plus large. Elle se bat avec les millions et les milliards d'autres liens qui existent sur Internet. Et c'est parmi ces millions et ces milliards d'autres liens qu'elle doit convaincre quel est le bon contenu à partager pour les lecteurs. Et je pense que c'est vraiment cette question qui est interrogée si on veut parler de la prescription et de la promotion de ces nouvelles manières de raconter. Voilà, je vous remercie.